Vous êtes sur RTL.
Dimanche de 5h à 7h.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre rendez-vous football du samedi soir. On refait le match articulé autour des informations les plus chaudes de ces dernières heures. La sanction qui tombe sur Marseille et le fair play financier qui demande à l'OM 3 millions d'euros d'amende, mais pas seulement, on y reviendra bien sûr. Mais c'est un ouf de soulagement malgré tout pour le club phocéen qui pourra disputer la Ligue des Champions. Nous parlerons également des spectateurs de retour dans les stades, peut-être au nombre de 5000 après le 11 juillet de l'étranger avec le duel Real-Barça symbolisé par la réussite de Benzema et les mots d'Antoine Griezmann. Et notre invité ce soir est à nos côtés, Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club. Bonsoir président.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Et nous sommes également avec Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir,
Denis, salut Denis. À tous.
Nous rejoindrons après 19h Stéphane Powels et Florian Gazan et Baptiste Durieux qui sera là pour relayer les opinions des auditeurs. Nous aurons également des auditeurs, Lucas, Fred, Daniel, Tony, Edouard seront avec nous ce soir. A tout de suite sur RTL jusqu'à 20h.
www.e.leclerc.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels et Florian Gazan qui nous rejoindront tout à l'heure après 19h et Baptiste Durieux pour les auditeurs qui également donneront leurs opinions, soit par les réseaux sociaux, soit de vive voix. Pierre Ferracci est notre invité, le président du club du Paris Football Club. Nous parlerons évidemment du PFC, mais la première question qui me vient à l'esprit, forcément c'est toujours un petit peu la même avec nos invités. Est-ce que la France... Pierre Ferracci a pris la bonne décision de ne pas reprendre le championnat. Même le président de l'UEFA a dit que c'était un petit peu tôt, tout le monde rejoue sauf la France.
Oui, le président de l'UEFA avait admonesté les Belges quand ils avaient tenté de reprendre une première fois. La Belgique est le pays où le taux de mortalité est le plus élevé aujourd'hui en Europe. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit très qualifié pour porter ce genre de jugement. Oui, la France a pris une bonne décision. D'abord, c'est le gouvernement qui l'a prise. Le président de la Fédération française de football l'a prise aussi pour le monde amateur, avant. Et puis la Ligue s'y est adaptée. Je crois que c'était la bonne décision et ça le reste toujours aujourd'hui.
Philippe Sanfourche, RTL.
Alors, monsieur Ferracci, depuis le début de cette crise, vous êtes un peu présenté, vous allez nous le dire, à tort ou à raison, comme l'homme qui murmure aux oreilles des gens importants jusqu'à l'Elysée, jusqu'à Emmanuel Macron, que vous avez un lien personnel, vous, votre fils également, qui est un économiste reconnu. Comment est-ce que vous qualifieriez déjà ce rapport avec le président Emmanuel Macron et dans quelle mesure est-ce que ça relève du fantasme de dire que vous avez échangé avec lui et que peut-être vous avez pu avoir une influence ?
Ça relève du fantasme. D'abord, j'ai des relations amicales avec le président, tout le monde le sait. Ça ne m'empêche pas dans ma vie professionnelle, pour ceux qui la suivent un petit peu, ma voix est un peu connue dans le domaine économique et social, quand il y a par exemple des ordonnances sur le marché du travail, d'exprimer un point de vue qui est assez différent du sien. Donc l'amitié ne veut pas dire qu'on partage les mêmes points de vue sur toutes les questions dont on parle. Mais sur le terrain du football, j'ai exprimé dès le départ un point de vue qui est connu, qui est qu'il fallait étudier l'hypothèse d'un arrêt définitif du championnat. Et j'ai dans la dernière ligne droite, comme le président de Brest par exemple, exprimé le souhait d'en terminer avec le championnat. Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que c'est lui qui ait pris la décision d'arrêter, il y a un Premier ministre dans ce gouvernement. C'est assez désobligeant pour le personnel politique, qu'on partage ou pas leurs opinions d'ailleurs, de croire qu'un président de la République ou un Premier ministre, pour prendre une décision de ce type, vont regarder la relation amicale qu'ils peuvent avoir avec un tel ou un tel, ou
la relation amicale mais professionnelle,
ou la relation de supporters qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel club. On sait que le président de la République supporte l'OM, je pense que le Premier ministre supporte le Havre aussi, donc ils ont d'autres éléments pour prendre ce genre de décision que cette relation avec tel ou tel club. Et après, on sait que le président de la République regarde, lit, appelle Noël Le Graët, appelle peut-être d'autres responsables, donc peut-être qu'il a pris connaissance de ce qui était ma position et qu'il en a tenu compte, mais comme celle de dizaines d'autres de personnes qui étaient pour ou contre la reprise.
Vous
donc
n'avez
c'est
donc
tout.
Pas eu d'échange direct sur le sujet avec lui
avec le président de la République, je n'ai pas eu sur cette question-là d'échange direct pendant la crise sanitaire.
Vous répétez donc que pour vous, la France a pris la bonne décision, pour quelle raison ? Uniquement sanitaire, parce qu'on parlait juste avant l'émission là, de blessures qui peuvent être amenées.
Écoutez, quand vous recevez, en dehors du problème du virus, je rappelle qu'on était au paroxysme de la crise sanitaire quand la décision a été prise, mais en dehors du problème du virus, quand en tant que président, vous recevez un protocole médical à appliquer, qui vous dit noir sur blanc que dès le deuxième match, quand on joue tous les trois jours, les risques de blessures musculaires seront multipliés par 6, je dis bien par 6, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous êtes responsable pénalement de la santé de vos salariés, vous ne pouvez pas avoir un point de vue autre que celui que j'ai eu, et que la majorité des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient, je persiste et je signe là-dessus.
Philippe Sainfourche.
Est-ce que vous pensez que, si bien évidemment la question sanitaire était centrale et que c'est elle qui a été au cœur de la prise de décision, est-ce que vous pensez que la notion de symbolique, on en a parlé de cette symbolique, à un moment donné, le gouvernement devait aussi montrer, donner un petit peu un axe de pensée à l'ensemble de la population avec des choses fortes. Et cette décision d'arrêter le football jusqu'à la fin de saison, elle était symbolique. Est-ce que ça a pu peser ça aussi dans la balance à votre avis ?
Moi, je pense que je suis pour une relance dynamique. Je suis pas très sécuritaire en la matière. Je pense que s'il n'y a pas de relance économique, le chômage fera beaucoup plus de dégâts que le virus n'a pu en faire. Donc, je suis assez tranquille là-dessus. Mais laisser démarrer le football, alors que la distanciation en matière de football est difficile à respecter, on en conviendra tous, je pense que ça aurait été effectivement à ce moment-là un très mauvais signe. Laisser le football, comme certains le pensaient, utiliser des tests qui n'étaient pas à la disposition du personnel hospitalier, par exemple, en nombre suffisant, ça aurait été effectivement un très mauvais signe. Donc peut-être que ça a pesé sur la décision gouvernementale, à la fois les enjeux sanitaires et puis les enjeux de ce type de communication. Il y a un point que je voudrais souligner dont personne n'a parlé, et je regrette d'ailleurs que la Ligue n'en ait pas parlé davantage. Le 30 juin, il y a des centaines de joueurs qui sont en fin de contrat. Aujourd'hui, vous avez, pour prendre un joueur important, Thibaut Werner, qui quitte Leipzig, qui va terminer le championnat d'Allemagne sans lui, qui va faire la Ligue des Champions sans lui, pour aller à Chelsea. Ces problèmes-là, tout le monde les a sous-estimés. Si vous aviez plusieurs centaines de matchs à faire en juillet, il y aurait eu des tas de problèmes juridiques. Il fallait soit retenir les joueurs contre leur gré, en les payant pour un mois ou pour deux mois, même si c'était autorisé, soit les laisser partir. Ben, c'était un déséquilibre et une façon de gérer l'équité sportive très particulière.
Parce qu'alors, sur le plan juridique, rien n'est réglé. C'est-à-dire, l'UEFA et la FIFA, dès le début de la crise, avaient dit on va réfléchir à la possibilité de prolonger ces fameux contrats qui s'arrêtent au 30 juin sur la durée des compétitions jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur terme. À l'heure où on se parle, juridiquement, ça n'est pas encore réglé, cette affaire-là.
Non, et puis ce n'est pas réglé, et puis vous voyez que c'est un peu la débandade. Il y a des joueurs qui refusent de jouer pour leur club et de terminer la saison avec eux. Et ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'équité sportive pour terminer ce championnat, enfin ces championnats.
Alors, vous avez raison sur le fond. N'empêche que la France reste à part aussi dans ce dossier-là, puisque ailleurs, on fait avec. Alors, il y a des joueurs qui refusent, il y a des joueurs qui acceptent, il y a des contrats qui vont être prolongés, d'autres non. Mais en tout cas, ça se fait en même temps que les autres championnats reprennent le jeu. À Paris, on sait que Cavani, par exemple, ne veut pas prolonger. Ça va être des discussions, mais c'est pas impossible. Ça pose un problème, ça, je suis d'accord avec vous d'équité, mais ça se fait quand même.
Mais rien n'est impossible, mais on verra dans les championnats italiens, espagnols, allemands et anglais quels sont les risques et les conséquences de blessures qui vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je veux dire, il y a des dirigeants du football, enfin pas beaucoup d'ailleurs, et puis certains de vos confrères qui balancent en permanence cet argument, les autres continuent. Moi j'ai envie de dire, et alors ? Ils peuvent se tromper tous, hein. C'est pas parce qu'on est majoritaire pour faire une bêtise que c'est de la vertu qu'il faut respecter partout. Moi, je pense qu'ils se trompent.
Mais on peut aussi accepter l'idée que nous trompons.
Bien sûr, mais le débat est ouvert. Moi, j'ai pas de problème avec ce débat-là. Je pense qu'en dehors des Allemands, qui ont géré la crise sanitaire très différemment de nous, les autres championnats ont tort de reprendre. Et ça se payera dans les semaines et dans les mois qui viennent. Quant au problème économique qui est posé par certains, je pense qu'il est à venir, et c'est pas moi qui le sous-estimerai, mais le problème économique aujourd'hui, il est beaucoup moins grave que tout ce qui va tomber sur la planète football dans les 3-4 années à venir.
On revient dans quelques instants avec vous, Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club, qui donne son sentiment sur la reprise ou non du football en France. En l'occurrence, c'est non, vous le savez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous parlerons de l'OM, du Paris Saint-Germain. Effectivement, Eric l'a dit, Cavani a refusé de prolonger. Il ne reviendra pas à Paris pour jouer avec le Paris Saint-Germain. On se retrouve dans quelques instants sur RTL jusqu'à 20h.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL. Additionnel. Modalité sur intermarché.com.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sainfourche, Eric Silvestro d'RTL. Tout à l'heure, Stéphane Powels et Florian Gazan. Baptiste Durieux avec les auditeurs. Et il va nous relayer leurs opinions qui sont exprimées sur les réseaux sociaux.
Parfois, c'est sévère.
C'est pour ça que le verbe m'a échappé. Et puis, Pierre Ferracci qui est avec nous, le président du Paris Football Club. Pierre Ferracci, donc les conditions sanitaires, on en a parlé, les conditions effectivement de joueurs qui se blessent, mais les conditions aussi économiques.
Les conditions économiques, il y a un manque à gagner considérable pour le football, mais il y a surtout un avenir qui va être sombre parce que le prix des transferts, qui est une ressource importante, peut baisser. Les sponsors vont gérer leur propre crise. Les droits de télévision peuvent aller à la baisse. Le patron de Mediapro a dit qu'il était inquiet pour la suite. Et puis la billetterie peut aussi s'en ressentir. Peut-être que les spectateurs vont pas se précipiter dans les stades comme on le pensait. Donc, il fallait passer déjà le cap difficile de cette fin de saison. Avec le prêt garanti par l'État qui a été souscrit par la Ligue avec l'appui des 40 clubs, on a mutualisé les risques. On a permis à un certain nombre de clubs qui n'avaient pas accès à ce prêt d'y avoir accès. Donc on passe le moment difficile, mais il y a des moments difficiles qui attendent l'ensemble du football demain.
Philippe Sansfourche.
Alors, on ne l'a pas encore cité, mais on va le faire. Jean-Michel Aulas est le premier à annoncer des chiffres qui dépassent parfois le milliard d'euros de manque à gagner. Est-ce qu'il force un petit peu le trait ? Est-ce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus finalement un chiffrage dans le camp de ceux qui étaient pour une reprise anticipée que dans le camp de ceux qui assument cette décision ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en rajoute pas un petit peu sur le manque à gagner et sur les conséquences de cet arrêt de la Ligue ?
Bien sûr qu'on en rajoute. Il faut savoir si on parle des pertes de l'exercice en cours ou des pertes des années à venir. Elles peuvent être importantes, les pertes de chiffre d'affaires. Puis si les clubs ne s'ajustent pas, les pertes d'exploitation peuvent être importantes. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à un moment donné que je ne comprenais pas quel était le chiffre qui était arrivé sur le bureau de la ministre des Sports. 1,2 milliard pour le football professionnel. C'est un chiffre qui n'a aucun sens pour la saison en cours, qui peut avoir du sens si on raisonne sur 3-4 saisons. Bon, et Jean-Michel, qui défend parfaitement son club, et parfois l'intérêt général du football, donne des chiffres qui, pour la saison en cours, ne correspondent pas à ceux que, par exemple, la DNCG est en train de produire. La DNCG sait quelle sera la répercussion précise sur la saison en cours. Je rappelle que le prêt garanti par l'État, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des entreprises, va renforcer le chiffre d'affaires et le compte d'exploitation des clubs. C'est pas un prêt que l'on va rembourser. On va prendre sur les droits de télé futurs. Mais les clubs ont le temps de s'adapter. Donc il y a un moment difficile à passer aujourd'hui, qui va se traduire par quelques centaines de millions de pertes. Je le reconnais notamment pour les gros clubs. C'est évident que c'est eux qui vont trinquer le plus parce que la billetterie leur fait mal. Si on avait repris le championnat, ça aurait été à huis clos. Donc de billetterie, il n'y en aurait pas eu non plus. Donc il ne faut pas tout mélanger et à un moment donné, ajouter des choses qui n'ont aucun sens.
On aurait sauvé les droits de télé.
On aurait sauvé les droits de télé. Peut-être qu'on les aurait sauvés aussi si les rapports entre Canal+ et la Ligue de football avaient été meilleurs. Parce qu'ils ont arrêté brutalement. Et je pense qu'avec des relations moins exécrables, on aurait pu négocier avec eux, malgré la fin du championnat, un petit supplément qui n'aurait pas été négligeable. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Je veux dire, on paye aussi des choses qui se sont passées dans les dernières années qui n'ont pas été très satisfaisantes pour la gestion du football professionnel.
Entre les lignes, quand je vous écoute, je me dis, vous n'êtes pas du tout satisfait de la façon dont fonctionne la Ligue.
On est plusieurs à ne pas l'être et il y a une refonte de la gouvernance à opérer moi je ne fais pas de problème de personne, ni avec Nathalie Bois de la Tour, ni avec Didier Quillot, ni avec la cohabitation des deux d'ailleurs, qui est aussi un problème. Il y a des problèmes plus profonds, il faut transformer la gouvernance de la Ligue. Ça, il y a un accord unanime. Après, sur la façon de la transformer, il peut y avoir des divisions et des
divergences. Il faut faire quoi alors selon vous?
Il faut sans doute, et là-dessus tout le monde est d'accord, créer une société commerciale qui gère les droits de télévision futurs. Reste à savoir s'il faut regarder plutôt du côté du modèle anglais, ce qui est plutôt l'avis de la Ligue 1, ou s'il faut regarder du côté du modèle allemand où la société commerciale est commune aux deux premiers championnats. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat important. Et puis il faut surtout regarder la séparation des pouvoirs entre la Fédération française de football et la Ligue. Il y a des tâches régaliennes qui peuvent être gérées par la Fédération française, comme elles le sont pour la Ligue de football amateur. Et il y a des enjeux économiques qui peuvent être gérés par quelque chose qui est nouveau et sur lequel on doit travailler dans les mois qui viennent.
Philippe Sansfourche.
Alors, pour rester sur l'interaction entre la Fédération et la Ligue, mais pour revenir sur le terrain des compétitions et du sportif, la Ligue 1 à 20 aujourd'hui, 22 souhaiterait Amiens et Toulouse. La Ligue 2, on sait que... L'élargissement à 22 avait été voté puis a été retoqué par la fédération alors qu'existe même une convention qui le permet. Aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui est possible selon vous pour la saison prochaine et qu'est-ce qui est souhaitable ?
Bon, on sait que Noël Le Graët et la fédération sont opposés à une Ligue 1 à 22 ou à une Ligue 2 à 22. C'est vrai que c'est prévu pour la Ligue 2 dans la convention qui gère les rapports entre la Ligue et la Fédération française. Mais Noël Le Graët ne veut pas faire d'exception par rapport au monde amateur, donc il s'y est opposé, il a un droit de veto là-dessus, en dehors des péripéties du côté du Conseil d'État. Ceci étant, les clubs de Ligue 2 qui revendiquent encore devant le Conseil d'État s'appuient sur cette convention et ont un argument juridique qui est assez fort. Moi je pense, puisqu'on parle de sportifs, qu'on aurait pu au moins, puisqu'on a prolongé la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, gérer les barrages. Ces 3-4 journées, les clubs s'étaient mis d'accord sur un protocole qui était, à mon avis, tout à fait satisfaisant pour le gérer en juillet, peut-être même fin juillet ou début août. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que Clermont, Ajaccio 3 en Ligue 2 avaient droit à ces barrages et ça pouvait se jouer. Et la décision qui a été prise par la Ligue, là, puisque la Coupe de la Ligue dépend d'elle, est un peu contradictoire avec cette incapacité qu'elle a vue de jouer ses play-offs et donc ses barrages ensuite avec la Ligue 1. Après, à 22, je pense que la fédération continuera à s'y opposer. Maintenant, il faut attendre l'avis du Conseil d'État pour la Ligue 2. Parce que la Ligue 2, encore une fois, dans la convention, à cette ouverture, les clubs peuvent aller dans une fourchette de 16 à 22. Et c'est quelque chose qui a été signé il y a plusieurs années entre la fédération et la Ligue de football.
Bernard Jouannin, le président d'Amiens, nous disait hier qu'il ne s'attendait pas à un autre résultat au Conseil d'administration de la Ligue, mais il s'étonnait du manque d'humanité. Lui s'est abstenu parce qu'il était partie prenante. Raymond Domenech s'est abstenu aussi. Mmh. Sinon, les 23 autres membres du conseil d'administration ont voté pour le maintien à 20 clubs. Il va y avoir l'Assemblée Générale la semaine prochaine. Il ne s'attend pas à beaucoup de soutien alors que dans les discussions des uns et des autres, il y a eu pas mal de vagues de sympathie autour d'Amiens. Est-ce que dans les intentions, on dit Amiens a raison de se défendre et après on vote contre? Ou est-ce que vous pensez quand même qu'il y aura quelques présidents, quelques clubs qui vont soutenir sa proposition?
Écoutez, moi j'ai plaidé dès le départ pour qu'il n'y ait pas de descente. Donc je suis à l'aise à l'image de ce qui a été fait dans le championnat néerlandais. Et personne n'en serait mort. Ben, on aurait divisé les droits de télé par 10% de clubs en plus. Je veux dire, la crise qui nous attend, elle est beaucoup plus redoutable que cet enjeu-là. Bon, je savais très bien que du côté de la fédération, il n'y avait pas de soutien de ce côté-là. Noël Le Graët, que j'apprécie beaucoup, a une attitude cohérente par rapport au monde du football. Du côté de la Ligue 2, il y a cet espace juridique que j'ai évoqué. Bon, moi, je vais rester cohérent avec les positions que j'ai prises depuis le début et j'espère qu'un certain nombre de présidents le resteront également. Mais vous avez bien vu que la Ligue 1 est contre.
Oui.
Contre. La majorité des clubs de Ligue 1 sont contre. Mmh. Donc, le problème de Bernard Jouannin qui défend une cause en mettant la question de l'humanisme et de la solidarité en première ligne...
Ce serait pour une saison, on le rappelle. Hein,
oui, mais bien sûr, pour une saison. Et on était tous d'accord pour dire qu'il y aura 4 descentes ensuite. Donc, la solidarité, ça passe par là. La solidarité, c'est pas seulement le prêt garanti par l'État que 40 clubs mettent à la disposition de ceux qui ne peuvent pas y avoir accès. Ça peut être aussi une Ligue à 22, en Ligue 1 ou en Ligue 2, l'espace d'un an. Vous avez raison de dire l'espace d'un an, ça peut se gérer. C'est défendu par des présidents qui sont même d'accord pour aller vers un championnat à 18. Hein. Mais là, il y a une crise sanitaire dont tout le monde dit que depuis 2 siècles, on n'en a pas connu de telle. Donc ça vaut la peine de prendre des mesures exceptionnelles. Mais maintenant, il faudra se plier aux décisions de la Fédération et du Conseil d'État.
Merci d'être avec nous, Pierre Ferracci, président du PFC jusqu'à 19h. Une autre question, un autre sujet, les jeunes qui sont formés en France. On l'avait d'ailleurs évoqué avec Philippe et Eric samedi dernier déjà, Kouassi qui s'en va au Bayern, Aouchiche du PSG qui va peut-être aller à Saint-Etienne. On parle du capitaine des U16 du PSG qui peut aller en Allemagne, d'un jeune de l'OM qui est convoité par la Juve. Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette... Parce qu'on parle beaucoup de ça, mais c'est normal, ça frappe comme cette fuite en avant des jeunes talents en France.
Ben, ça m'inspire d'abord, puisque je suis en Ligue 2, que la Ligue 2 française est très forte et très puissante, puisque les championnats anglais et allemands la pillent régulièrement, en dehors de nos amis de la Ligue 1 qui se servent aussi chez nous. Mais ça m'inspire qu'il faut avoir un football professionnel économiquement plus fort, en Ligue 1 et en Ligue 2, capable de faire face au football allemand et au football anglais, qui sont les deux championnats les plus équilibrés et les plus puissants, avec des modèles assez différents dont il faut s'inspirer en prenant peut-être le meilleur de chacun d'entre eux pour faire demain une gouvernance du football et un modèle économique et social qui tienne la route.
Philippe Sansfourche.
J'aimerais revenir sur votre relation privilégiée avec, non pas avec Emmanuel Macron pour personnifier les choses, mais avec le pouvoir depuis des années, du fait de vos activités professionnelles au-delà du football. Vous avez été amené à connaître et à côtoyer les anciens présidents, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il y a un débat qui se pose sur la place du sport en France et sur le fait que le pouvoir, parfois, utilise quand ça l'arrange les succès du sport et puis ne considère peut-être pas le sport comme un secteur à part entière sur le plan économique, sur le plan de son tissu social. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est ce que vous ressentez ou pas du tout?
Non, je pense que le football doit mieux se défendre lui-même. Le problème, il est peut-être chez nous, il n'est pas chez François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite ou des gouvernements en même temps, à gauche et à droite. Je pense que le problème, il est vraiment chez nous et qu'il faut qu'on affiche à la fois une plus grande solidarité et puis un modèle qui tienne la route. J'évoquais à l'instant le modèle anglais et le modèle allemand. Ils ont chacun leur cohérence, avec des différences notables. Ils sont solidaires, beaucoup plus que le nôtre, quand on le regarde bien. Dans les négociations qu'on a avec nos collègues de Ligue 1 en ce moment sur le déplafonnement des droits de télévision, on en parle. Et j'espère qu'on va se mettre d'accord pour avoir un modèle qui tienne la route. Un modèle qui tient la route, c'est un modèle qui tient compte des locomotives. Il faut leur laisser un espace qui leur permette d'être d'égal à égal en concurrence avec des clubs allemands, des clubs espagnols, des clubs italiens ou des clubs anglais. Mais il faut en même temps préserver la force du football qui est aussi en Ligue 2, qui est aussi dans le monde amateur. Et c'est un équilibre qu'on peut trouver, je pense, demain avec l'ensemble des acteurs du football.
Un dernier mot, Président, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du PFC malgré tout. Hein. Le PFC vit dans l'ombre, entre guillemets, du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Comment vous appréhendez tout ça? Beaucoup... Ça fait quand même un moment que vous êtes président du PFC.
J'y suis depuis 7 ans. Il y en a qui sont de beaucoup plus longtemps que moi. Vivre à Paris, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs, parce que le PSG, avec des moyens que vous connaissez, sur le plan sportif, écrase tout depuis 40 ans. Il y a plus forte raison depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée de l'État qatari. Donc on va exister. Moi, je me suis fixé pour objectif de monter en Ligue 1 dans les 3 ans qui viennent. Je disais 3-4 ans l'an dernier, donc c'est forcément 2-3 ans cette année. On va annoncer l'arrivée d'un partenaire important dans le courant de l'été. On est en train de finaliser la négociation. C'est plus difficile qu'ailleurs, mais on peut y arriver. On a un bassin francilien qui est un des meilleurs du monde en termes de potentiel de jeunes joueurs. On est en train de faire la démonstration qu'on sait les gérer, ces jeunes joueurs. On est en train, je crois, après une année difficile, de faire une belle équipe pour retrouver le haut du tableau. Et j'espère que dans les 3 ans, on sera dans la division supérieure.
Éric Silvestre. Et le parcours du PFC, d'ailleurs... montre la densité de la Ligue 2. Vous avez été tout près de jouer la montée, puis tout près de jouer la descente cette année. Finalement, la décision aussi vous a sans doute été favorable d'arrêter le championnat, même si le PFC n'était pas en position de relégable. C'est vrai qu'on peut passer de l'un à l'autre
bien sûr.
Très facilement.
Regardez, il y a 2 ans où on était Lens, qui monte en Ligue 1. Regardez, il y a 2 ans où on était Ajaccio, qui aurait mérité et qui mérite encore de jouer les play-offs. Ça va très vite en Ligue 2, c'est un championnat très dur. Les clubs qui redescendent, Caen et Guingamp, ont eu des difficultés en début de championnat. Donc on a eu une année très difficile, peut-être un peu d'euphorie après la 4e place, peut-être un recrutement loupé. Donc là, on est parti sur d'autres bases et j'espère que le championnat ressemblera à ce qu'on a fait il y a 2 ans plutôt qu'à ce qu'on a fait l'an dernier.
Merci beaucoup Pierre Ferracci, président du Paris Football Club, d'avoir été avec nous jusqu'à 19h. Nous parlerons dans la deuxième partie jusqu'à 20h d'On fait le match de Marseille. Le fair play financier sanctionne les Marseillais, de Cavani qui refuse de revenir au Paris Saint-Germain pour jouer la Ligue des Champions. Il pense sans doute à un nouveau club, un petit peu comme Timo Werner, l'Allemand, qui est allé à Chelsea. Nous parlerons également de Benzema, sa réussite, des mots de Griezmann et de tout un tas de choses avec Philippe Sanfourche, Éric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels et Florian Gazan. A tout de suite sur RTL.
RTL, on repartir de 7h.
RTL, il est 19h. L'information, Alice Moreno. Bonsoir Alice.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Reprise d'activité pas à pas dans le monde du sport. Dès lundi, les sports collectifs seront de nouveau autorisés. Décision prise à l'issue du Conseil de défense et de sécurité nationale réuni hier. Tous les sports de haut niveau pourront reprendre un entraînement classique avec contact, même les sports de combat, mais toujours avec des mesures de prévention adaptées aux activités concernées. Mesures qui restent encore à déterminer. Il faudra attendre le 11 juillet pour la réouverture des stades au public, avec une limite d'accueil de 5000 personnes. Lundi, notez également la réouverture des cinémas et des casinos. Mais les discothèques, elles, ne devraient pas rouvrir avant septembre et les patrons de ces établissements, déjà très impactés par la crise, envisagent de déposer un recours devant le Conseil d'État contre cette décision. La Convention citoyenne pour le climat poursuit l'examen des 150 propositions destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dessinant un projet de société auquel Emmanuel Macron répondra fin juin et qui pourrait déboucher sur un référendum. Aujourd'hui, ils ont rejeté à 65% une proposition de réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires. En revanche, ils souhaitent que la France retienne le crime d'écocide. Le parquet de Dijon requiert la mise en examen de 4 membres de la communauté tchétchène interpellée interpellés après les violences du week-end dernier dans l'agglomération dijonnaise. Ces quatre suspects, trois hommes de nationalité russe et un Français d'origine russe, faisaient partie des six individus interpellés jeudi. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à la préparation des expéditions punitives ou d'avoir participé activement à ces violences. Le procureur de la République de Dijon a précisé que ces violences ont fait une vingtaine de victimes physiques. Emmanuel Macron demande au Conseil supérieur de la magistrature de vérifier que le parquet national financier a mené en toute sérénité, sans pression de l'exécutif, son enquête sur les époux Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Cette réaction présidentielle est en fait une réponse aux déclarations d'Éliane Houlette, l'ancienne chef du PNF qui avait assuré au Sénat avoir mené des investigations sous la pression du parquet général. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris pour la régularisation des sans-papiers et un logement pour tous. Ils sont partis en début d'après-midi de la place de la Nation pour rallier la place Stalingrad dans l'est de la capitale à l'appel de plusieurs collectifs et de la marche des solidarités. D'autres rassemblements pour la régularisation des sans-papiers se sont tenus dans plusieurs villes de France, dont Marseille, Lyon, Lille ou Strasbourg. Le temps demain matin, une bande pluvieuse s'étendra à des pays de la Loire Hauts-de-France. Ce sera nuageux sur l'île de France ailleurs. Du soleil et quelques passages nuageux. Les températures seront comprises entre 16 et 26 degrés. RTL, il est 19h03. On refait le match, la suite, avec vous, Denis Balbir et toute votre équipe.
Merci Alice Moreno, très bonne soirée à vous. À tout de suite.
Pergola, abri de piscine.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, Florian Gazan et Stéphane Powels nous ont rejoints. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Ferracci, le président du PFC, était notre invité. Alors, on a évidemment beaucoup parlé de ce qui se passait en France et un petit peu plus que de ce qui se passe au PFC. C'est normal, hein, parce que c'est une personnalité évidemment qui a compté et qui compte dans le monde du football notamment, et pas seulement dans le monde du football de Ligue 2. Florian Gazan, votre réaction sur ce qui s'est dit ce soir?
J'ai trouvé qu'il était extrêmement brillant. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui est hyper structuré. Moi, j'ai tout compris ce qu'il disait, ce qui n'est pas toujours le cas depuis deux mois et demi au niveau du football français. Et non, mais il a un point de vue que je trouve assez, assez mesuré. Il admet pouvoir s'être trompé. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là aussi. Je trouve qu'on a coutume d'oublier de dire quand même que malgré tout, on ne sait pas qui au final aurait raison de cette histoire et que pour l'instant, personne n'a raison, personne n'a tort. Attendons de voir encore un peu. Mais en tout cas, il a dit des choses hyper intéressantes, notamment sur cette gouvernance du football français qu'il faut vraiment réformer parce que là, pendant deux mois et demi, on a quand même été ridicule. Là aussi, on a été les seuls d'Europe, mais être ridicule.
Stéphane Powels.
On se rend compte qu'on a une machine de guerre en face de nous, puisque c'est quand même assez rare d'avoir un président quand on est comme ça tous autour d'une table où nous sommes, je pense ici, tous convaincus qu'on a quelqu'un qui tient la route, qui est intelligent, cohérent et qui, comme dit Florian, et qui accepte que parfois peut-être il y a eu des petits ratés quelque part. Moi je retiens plusieurs choses, je vois qu'il parle surtout du modèle économique allemand et il le met quand même entre les lignes que la Ligue, c'est pas ses amis, j'ai l'impression qu'il a un petit rapport de force avec l'établishment de la Ligue. On sent vraiment qu'il n'est pas fan et on sent aussi que la Ligue a envie d'aller plutôt opter sur un regard anglais qu'un regard allemand dans le futur, dans les projections du futur. Et je me rends bien compte qu'il n'est pas très fan, et je le dis, de la gouvernance de la Ligue. Ça se sent. En tout cas, vous ne l'avez peut-être pas perçu comme ça, Denis, mais moi, je ne pense pas qu'ils vont partir en vacances tout de suite ensemble, ou alors juste pour manger une petite assiette de pâtes, mais ça ne va pas durer plus longtemps. Deuxième chose, il a dit quelque chose de très intéressant.
Il est sérieux, genre, il a pris ses notes. Ouais,
non, mais parce que j'avais quelqu'un de sérieux, donc je préfère d'être sérieux. Il y a un président qui raconte des conneries.
Non,
et la deuxième chose qui m'a plu, c'est ce discours qu'on a parlé ici de nombreuses fois tous ensemble sur les blessures. Quand on nous disait, quand on était en train de nous dire qu'il fallait faire une petite préparation de 3 semaines, qu'on allait être en forme pour jouer et reprendre un championnat normalement, ben non, c'est 6 semaines dans les préparations, tous les préparateurs physiques nous le diront, mais surtout qu'on joue tous les 3 jours et il nous explique qu'il l'a dit depuis le début, et c'est vrai, il faut lui rendre ça, et qu'il y a un vrai souci. On se rend compte que ça commence à casser, on le voit en Allemagne, et que peut-être, et ça va être un débat peut-être entre nous et aussi avec nos auditeurs, c'est de se dire aussi, c'est peut-être une bonne chose que les Français n'ont pas joué, parce que pour finir, c'est c'était on va être à la rue en Champions League, Paris, Lyon vont être à la ramasse, ben peut-être qu'ils vont être moins à la ramasse, qu'il y aura moins de casse. Et c'est ce qu'il a dit ce président. Et j'ai beaucoup aimé aussi votre question sur les jeunes. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il dit la Ligue 2, on se fait piller. Ça fait des années que la Ligue 2 se fait piller par les Allemands, par les Anglais.
Ouais, on y reviendra parce que là, ce n'est pas vraiment du pillage. Ce sont des jeunes qui ne veulent pas rester dans leur club formateur, mais qui s'en vont.
Denis, quand vous connaissez un peu le milieu, vous savez comme moi que c'est une question de pognon. À partir du moment où on met la caillasse aussi bien pour les agents, pour les joueurs, ils se battent. Et peut-être qu'à un moment, il va falloir réfléchir à avoir. Il y avait un gentleman agreement entre les clubs pour ne pas se piquer les jeunes, ça existait. Je pense qu'il va falloir à un moment protéger aussi nos clubs, pour éviter de se faire trop piller. Je ne sais pas si c'est possible.
Je pense que c'est plus compliqué que ça. Enfin, si on en parle plus tard de ces histoires, je pense qu'il y a aussi le fait que dans les centres de formation, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément toujours énormément de cohérence à tous les niveaux et que les jeunes parfois sont un peu paumés là-dedans parce qu'on ne sait pas trop vraiment leur tracer un projet de 2, 3, 4 ans dans le club. Et forcément, quand tu arrives au bout de ta formation, tu te dis bon, qu'est-ce qui va se passer finalement, si on propose mieux ailleurs. Mais il faut défendre nos clubs. C'est sûr que quand maintenant Paris et Lyon...
c'est quoi mieux ailleurs? C'est de l'argent ou bien d'avoir du temps de jeu?
Non, mais aussi un vrai projet. Qu'on te dise, on te garantit de jouer 20 matchs par an. Bah, le petit Aouchiche, on en parle, il a joué 3 matchs avec Paris. Il peut se demander quand même s'il va pas, si il en joue 15 ou 20 en Allemagne ou à Saint-Étienne, est-ce que c'est pas mieux pour lui? Mais c'est vrai qu'il faut protéger nos clubs. Parce que si même maintenant Paris et Lyon, qui sont quand même nos clubs phares, se font piller sur les jeunes, c'est problématique.
Alors, Baptiste Durieux est là pour nous relayer un petit peu ce que pensent les auditeurs de l'intervention de Pierre Ferracci, le président du PFC.
Ils sont très contents, les auditeurs. Ça va faire un petit peu culte de la personnalité, mais je vous le dis quand même. Olivier qui nous dit entre machine de communication, justesse et précision des propos, j'ai adoré le président Ferracci. Dommage que les résultats du Paris FC soient pas en adéquation avec la qualité de l'homme, ça c'est sûr. Message de Julien, je suis conquis et convaincu par les propos du président. J'adhère à 99,99%. Message de Yann, excellente interview, posée claire, précis. Hyper agréable d'écouter de telles personnes. Et puis le message de Dimitri, mais qu'il le mette immédiatement à la tête de la fédération ou de la ligue. En plus, il part en vacances avec Macron apparemment, et ça peut vraiment aider, nous dit Dimitri.
Pourquoi c'est un avantage d'aller en vacances succès avec Macron?
Philippe Sansfourche, le PFC a fini 18e de Ligue 2. Il y a aussi ce discours un peu plus sur le terrain sportif du président qui veut faire monter son club d'ici 2-3 ans en Ligue 1. Philippe Sansfourche.
Oui, alors ça, effectivement, c'est
une énorme ambition, là, quand même.
Éternelle question du deuxième grand club en Ile-de-France et à Paris, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a la place? On a vu que le Paris Saint-Germain a mis des années et que ça a été grandement difficile pour arriver à trouver cette place au sein du football français. Est-ce qu'il y a la place pour un deuxième club? Bien évidemment que oui. Et là, on va totalement revenir sur le sujet précédent. C'est-à-dire que le bassin de population de l'Île-de-France révèle tellement de joueurs, tellement de talents, qu'il y a bien évidemment la place pour un deuxième club, pour émerger au plus haut niveau et pour justement, peut-être un club qui serait plus sur la formation, sur la capacité des jeunes à pouvoir tout de suite avoir...
Un peu comme se fait en Allemagne, Leipzig et puis l'autre club satellite.
Salzbourg. Oui, tout à fait. Ouais, alors, d'ailleurs...
Mais là, c'est le même propriétaire, c'est un peu différent, mais...
Oui, non, mais c'est une question qui se pose aussi pour le Paris FC par rapport au fait d'être un des possibles. Dieu sait qu'il y en a, un club satellite de Manchester City. Vous savez que Manchester City continue toujours de vouloir s'implanter en France. Il y a des clubs comme Troyes, il y a plusieurs clubs qui ont été...
Enfin, moi, j'aurais quand même plutôt mal au derrière que ça soit un accord avec un club étranger. Je préférerais qu'à la limite, comme dit, même si ce n'est pas les mêmes propriétaires, qu'il y ait un accord
PSG... Oui, le PSG cherche aussi à s'implanter en Angleterre. On a parlé de Leeds.
Tu le dis toi-même, cette densité, ce volume de joueurs de talent dans ce grand Paris, on va l'appeler comme ça, moi je préférerais qu'à la limite, il y a tellement de petits jeunes et de gamins qui sont perdus pour le foot parce qu'il y a eu un mauvais management, on les a mal dirigés, s'ils pourraient avoir une synergie, une symbiose entre les deux clubs et que celui qui ne passera pas au PSG puisse s'épanouir et pourquoi pas plus s'y affiniter au deuxième club.
Admettons que là aussi, la France est une exception. Je veux dire, dans tous les championnats européens, dans tous les grands championnats et même les championnats moyens, il y a dans la principale ville du pays ou dans le principal bassin de population du pays, au moins deux voire plus club professionnel et souvent en première division, voire même qui jouent les premiers rôles. Donc il n'y a aucune raison qu'en France il n'y ait pas deux clubs du bassin parisien qui jouent en Ligue 1. Et alors c'est vrai qu'il y a eu l'entente Sannois-Saint-Gratien qui s'en est rapproché une année en terminant quatrième, il y a eu le Red Star, il y a eu Créteil,
il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de rêves.
À chaque fois le projet il se heurte à la dernière marche.
Le rêve ne s'est jamais réalisé.
Sur les 20 dernières années, il y a eu plusieurs clubs qui s'en sont approchés, il n'y en a aucun qui a réussi. Le Paris FC, pourquoi pas? Ils vont peut-être finir par y arriver. Il y a deux ans, ils étaient tout prêts.
Mais est-ce, si que c'est pas, est-ce que ce n'est pas un plus grand problème, on va dire, culturel par rapport
si,
à...
Si, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est très compliqué dans la même ville. Il y en a eu à l'époque, hein, deux clubs dans la même ville. Mais je vais te prendre en Belgique, le Football Club Bruges et le Cercle de Bruges. Ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que chacun a une culture différente.
Non, mais ça existait en Allemagne. C'est microscopique.
Ce n'est pas les mêmes bassins de population.
Vous êtes en train de parler de choses que vous ne connaissez pas, puisque Bruges, c'est peut-être plus petit que Paris, mais la zone de chalandise, la zone commerciale, la zone économique de la Flandre occidentale et orientale, elle fait quand même un million. Donc, sur un million de personnes, ton Paris, le Grand Paris, fait combien? Un million?
11.
Non, mais Paris même.
Ouais, deux Paris même et 11 avec...
Eh bien, une belle région comme Bruges d'un million avec toutes les deux Flandres, ils n'ont pas réussi d'avoir deux clubs. Tu peux sourire, mais je pense que c'est plutôt... Je te dis que c'est culturel.
Je ne souris pas, vous avez que les autres qui est pas là en plus.
Je dis que c'est culturel. Je dis que donnez-moi, à part les Anglais, donnez-moi des pays où il y a deux clubs dans la même ville et qu'ils avaient Madrid. Alors, vous allez me parler de la Théo.
Munich.
Je sais, mais à Paris, tu as l'impression qu'il y a le Paris Saint-Germain et que depuis des années, les autres clubs à côté qui ont voulu exister n'ont pas pu exister pour plein de raisons.
C'est possible. En rugby, ça a été possible. Parce que, enfin, c'est possible. Il y a le Stade Français, les Racing qui sont des clubs parisiens. Donc, si tu peux le faire en rugby, tu peux le faire en football. Il y a le bassin de population. Au niveau économique, on ne peut pas dire que l'Île-de-France soit assez pauvre. Il faut juste que des investisseurs qui mettent suffisamment d'argent.
Et que les petits joueurs de Bondy partent à Monaco, par exemple, mais qui ne viennent pas dans un club parisien.
Oui, mais enfin, après,
par exemple.
Il y a
une concurrence permanente de
Philippe Saint-Fauche.
Culturel, d'énormément de spectacles, de choses qui font qu'il y a une offre telle que pour aller voir du foot le week-end à Paris, il faut que le spectacle en vaille la chandelle. Quoi.
Ça s'appelle Philippe, ça s'appelle l'identité. Tu l'as vu avec Lens, même en D2, le stade était rempli.
J'ai été souvent à Lens. Une fois que tu as quitté le stade, il n'y a pas 50 000 trucs à faire à Lens à côté.
Non, mais là, c'est très réducteur. Moi, je vais te donner mon point de vue.
Un formidable musée, on est d'accord.
Non, je vais te donner mon point de vue par rapport Stéphane au club de Paris FC, avec beaucoup de respect de ce président. C'est qu'à un moment, pour avoir une identité, il ne suffit pas de prendre, il le dit lui-même, Jérémy Ménez, pour essayer de penser que les gens vont venir dans le stade. Il faut une vraie culture de club, et peut-être que ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est cela. Tu connais beaucoup de tamis, toi, t'as beaucoup de copains qui sont supporters du Paris FC.
Les gens qui vont au stade qui te permettent d'arriver en Ligue 1. Hein. Si tu structures bien ton club, que tu sais repérer dans la région,
il faut quand même
une âme, il faut un public, quoi.
Il faut quand même quelque chose.
Mais attendez, il y a plein de On y reviendra.
Allez, s'il vous plaît, on y revient juste après la pub. On reparlera, on finira ce débat un petit peu chaud sur le PFC qui peut peut-être exister.
Sur la taille de Bruges aussi, on n'est pas d'accord.
Du Paris Saint-Germain.
Sur la taille du club brugeois.
On parlera du Paris Saint-Germain, justement, de Marseille notamment, avec le fair play financier qui a condamné un petit peu l'OM, mais qui pourra jouer la Ligue des Champions. A tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.fr
et economie.gouv.fr.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Stéphane Powels, le Belge, Eric Silvestro, Philippe Sansfourche d'RTL et Florian Gazan. Nous allons, on finit rapidement sur le PFC dans l'ombre du PSG.
Ah bah on leur souhaite, ils ont failli monter quand même, Eric, il y a deux ans, hein, donc on leur souhaite que cela. Mais je reviens à ce que dit Philippe Sansfourche, c'est que si vous n'avez pas un mec qui met beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une équipe compétitive, pour séduire les gens, il va falloir ça. Venir au stade avec une équipe moyenne de Ligue 2, c'est compliqué, Paris prend trop de place. Le PSG prend trop de place.
Alors le PSG justement, messieurs, on a appris il y a quelques instants que Cavani ne reviendrait pas jouer dans la capitale. Il est, on le sait, depuis quelques mois, un grand fan de l'Atlético Madrid pour aller rejoindre le club espagnol. Est-ce qu'il ira là-bas? On ne le sait pas encore, c'est pas confirmé à 100%. Meunier, on parle de Dortmund. Cavani qui ne revient pas jouer, qui se préserve pour son avenir, c'est logique, Eric Silvestro.
Oui, c'est compréhensible. Meunier serait dans le même cas de figure que Cavani aussi. Moi, je peux comprendre. Il y a des primes à la signature. Il y a des derniers contrats pour Cavani, sans doute un peu costaud. Il n'a pas été traité de manière exceptionnelle non plus lors des derniers mois avec le PSG.
Et Dieu sait que on va rappeler qu'Icardi...
Non, mais moi, je ne défends pas Cavani absolument.
Eric Silvestro, tel.
Mais non, mais Philippe,
calmez-vous.
Calmez-vous.
C'est chaud. Il fait un choix de s'assurer son avenir. Et puis voilà, enfin, je veux dire...
Ah, c'est formidable.
Philippe Saint-Fourche,
Cavani, c'est l'immunité à vie. Quoi.
Non, pas du tout.
Le club fait signer Icardi. Mais non. Il joue un dernier contrat.
Moi, je suis le premier à dire qu'il devait partir.
Donc, il vient d'un contrat. C'était un grand méchant loup et c'était toute sa faute. Philippe, Edinson Cavani jouait pas où il voulait parce que monsieur Edinson Cavani voulait absolument jouer dans l'axe. Après, Neymar arrive. Ah, bah, il peut plus tirer les pénalties. Ah, bah, c'est de la faute de Neymar. C'est l'affreux Neymar. Donc, Cavani, c'est Dieu sur terre.
C'est pas Dieu sur terre. C'est 200 buts en Ligue 1 en 7 ans avec le PSG.
Il a l'occasion. Il a 3 matchs à jouer
en Ligue des Champions,
oui, mais enfin,
pour
si.
Peut-être marquer l'histoire du club et son histoire bah, personnelle.
Il jouera pas.
L'histoire d'un club qui a pas voulu le garder.
Il ne jouera pas, Philippe.
Bah, c'est un club qui a pas voulu le garder.
Non, mais c'est bien, c'est
mais
formidable.
Non, mais non, j'ai pas dit que c'était formidable.
Il les jouera pas. Il les jouera pas. Il sera sur le banc.
Il sait qu'il était maltraité, hein, 2 millions d'euros.
Non,
par
mais
c'est
pas du tout. Bon après.
Non, mais là tu mélanges tout, toi qui n'aime pas qu'on parle d'argent.
Tu caricatures. S'il vous plaît,
Denis Brogniart, sortez de ce corps.
De cette image idyllique de Nilsson.
Pas du tout.
C'est un garçon effectivement qui
t'aimes pas les pêcheurs de toute façon.
Au top niveau, qui a toujours tout donné pour son club, et ça, il y a rien à dire. Mais aujourd'hui, qu'on ouvre les yeux, quoi.
Je te comprends, Philippe.
Sont bien ouverts, s'il vous plaît.
Pardon.
Les yeux sont bien ouverts. Mais ce que dit Cavani, ce que voit Cavani, c'est qu'Icardi devient la figure de proue en attaque du Paris Saint-Germain. Pourquoi j'irais essayer de me casser un genou?
Il a 28 ans, Edinson Cavani, il en a 34.
Justement, ouais, mais justement, il veut un dernier contrat quelque part, puisqu'il n'est pas gardé par le PSG. C'est quand même logique que tu ailles chercher un dernier contrat quand tu es cramé au Paris Saint-Germain. Alors que t'as marqué 200 buts, qu'on t'a traité moyennement bien ou plutôt bien, mais c'est quand même logique que
quand tu t'appelles Cavani et qu'il y a un club qui te veut, oui. Il peut attendre éventuellement le 20 août.
Tu vis
au pays des bisounours, comme il dit, t'attends la blessure, et puis alors où tu me fais rire, Philippe, excuse-moi, avec toute autre amitié, mais c'est quand tu me dis, il peut quand même attendre, il peut quand même, oui, nous sommes beaucoup, tu peux attendre 3 matchs quand tu t'appelles Cavani pour rendre service au Paris Saint-Germain. Non, mais un petit vélo de grosse solette, t'as vu ça dans quel pays? Mais
sur
service à lui, mais champion de quoi, quoi. Ah, il doit donc tenter d'être champion, de gagner la Champions League avec Paris. Ouais, ils l'ont jamais gagné, pourtant la formation.
Est-ce qu'il le sera pas d'ailleurs?
Mais il le sera.
Mais il le sera quand même.
Il le sera s'il gagne des champions comme il a joué. Il le sera.
Ah oui, mais alors s'il n'était pas au tournoi final, alors que s'il y est et qu'il met un but à la 90e contre le Barça, je pense qu'on s'en souviendra différemment.
Philippe, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut pas idéaliser Cavani comme aucun autre joueur, parce qu'il y a un moment donné où il pense à leur gueule, mais justement, il pense à la sienne. Imagine qu'il se blesse là, Cavani. Qu'est-ce qu'il fait la prochaine fois? Imagine aussi peut-être qu'il a déjà signé avec un club qui peut-être est encore en Ligue des Champions, qui se dit bah nous on aimerait bien la gagner. Tout donc si Cavani joue pas avec le PSG, ça nous arrange.
Ah et là venir, et là terminé Philippe Sanfourche.
Eh ben
on n'entend plus Philippe Sanfourche.
Non mais avec qui sort du bois, qu'il le dise immédiatement, qu'il laisse pas justement laisser traîner l'idée que c'est simplement une question d'orgueil et qu'il a l'impression d'avoir été maltraité.
Ah bah, il va pas faire une fausse com, je veux dire évidemment qu'il va un peu enjoliver la chose.
Ce que je veux dire, c'est que pour suivre le Paris Saint-Germain depuis des années, l'entourage d'Edinson Cavani, la communication autour d'Edinson Cavani, c'est un modèle du genre.
Oui.
C'est un modèle du genre, parce qu'au final, cette relation qu'il a nouée avec les supporters, je ne dis pas que c'était fin et que c'était du cinéma, ce serait insultant à son égard, mais il en a beaucoup joué. Il en a beaucoup joué, et aujourd'hui, je trouve que par rapport aux supporters qui l'ont toujours défendu,
il s'est bien comporté, Philippe, il s'est bien comporté.
Pas toujours. Refuser de venir jouer 3 derniers matchs de Ligue des Champions qui peuvent éventuellement te permettre d'être champion d'Europe. Eh ben moi je trouve que c'est une faute de goût.
Non, t'exagères.
À minima, une faute de goût.
Alors je te rejoins sur le côté, c'est pas très sportif. Après, moi je comprends sa démarche. C'est juste je suis d'accord avec toi. C'est pas très fair play, c'est pas très sport, c'est pas son image. Donc il peut casser un peu son image parce que maintenant il a plus rien à faire.
Neymar ou Ibrahimovic, qu'est-ce qu'on aurait pas entendu?
Évidemment. Mais moi j'étais le premier à dire qu'Icardi devait remplacer Cavani, que Cavani devait partir. Donc j'ai aucun mal à dire qu'il fait le bon choix là.
Non mais à partir du moment
où pas Cavani.
À partir du moment où ton club veut se séparer de toi. Pourquoi tirer mouiller la chemise en risquant de te blesser et de signer de contrat?
Là où Philippe a raison, tu peux dire j'ai un moyen peut-être de marquer encore un peu plus l'histoire. L'aventure, il reste 4 matchs. Et ben je les joue.
Ça n'existe plus.
Il les joue puis il se fait fracasser le genou à la 90e de la demi-finale.
Mais c'est bien pour ça que je comprends son choix. Philippe a raison de dire aussi qu'il aurait pu aller au bout de la chose.
Bien sûr,
mais par contre, sur la communication, comme Philippe parle de communication, et Florent qui connaît bien le PSG aussi, moi je trouve quand même qu'il a montré toujours une attitude. Tu me dis, il a bien travaillé.
Ça, c'est pas vrai.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est allé dans les boîtes de nuit, il a ramené des gonzesses dans les hôtels. Dis-moi, ça m'intéresse. Les hivers
où il revenait pas en temps et en heure. Et il y a eu 2-3 fois aussi où il a dit c'est comme ça, je vais partir. Il faut pas l'oublier aussi dans l'histoire du PSG. Il a menacé de s'en aller et il est resté. Alors après, oui, il a une très belle image. Sur Instagram, il passe la faux, il traite les vaches. J'ai l'impression qu'il allait mourir dans le pré. J'attendais Karine Le Marchand sur les photos. Il fait ça très bien. Mais il est pas non plus.
Il a quand même marqué 200 buts.
Denis, c'est pas le meilleur. Mais c'est pas le
meilleur buteur du club.
Non, mais c'est vrai.
On parle de l'attitude. On parle pas de la
performance.
On parle pas d'un mec qui fait un capé.
PSG sous l'ère qatari avec l'équipe que tu as derrière, oui. C'est aussi normal qu'ils mettent quelques buts.
Non, mais je vois que les supporters du Paris Saint-Germain crachent sur ce qu'ils ont adoré. C'est quand même très bon.
Non, mais Denis, on dit souvent que certains entraîneurs ont la carte, etc. Lui aussi, on peut dire qu'il a la carte, Cavani. C'est vrai, il a cette image, Philippe a raison. Il l'a bien entretenu.
Il a le portefeuille.
Il a toutes les cartes.
Il a la gold, la platine.
Bon, mais tant mieux pour lui s'il a bien géré ça. Mais c'est vrai que c'est pas aussi idyllique qu'on peut imaginer.
Non, mais penser qu'il doit rester pour faire plaisir à ce club qui lui a tant donné, mais vous vivez
pour lui.
On va payer des millions, mais il s'en fout.
On va écouter Daniel. Qu'il a tenté de transmettre pendant 7 ans.
Daniel, supporter du Paris Saint-Germain, est avec nous. On parle beaucoup de Cavani, donc il ne reviendra pas jouer avec la tunique du Paris Saint-Germain, avec ce maillot du Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu, Daniel ? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
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 Bonsoir à tous.
Alors,
écoutez-moi, j'étais en train de vous écouter, hein. Et j'étais un peu averti au dernier moment quant à la décision qui doit être prise ou pas, si Cavani doit rester ou pas. Aux dernières nouvelles, Cavani, normalement, d'après ce qu'il disait, il était en entente avec le Paris Saint-Germain pour ce qui est de finir cette compétition-là comme Thiago Silva. Et là, j'apprends apparemment qu'il y a Anguille Souroche. Bon, la question, elle est que, est-ce que Cavani doit vraiment rester pour donner à fond pour les derniers matchs, ou doit-il partir pour éviter une éventuelle blessure ? Moi, je ne pense pas que, personnellement, psychologiquement, on soit à fond quand on sait que notre futur est ailleurs. C'est inconscient.
Il a raison.
À partir du moment où vous savez que votre avenir est ailleurs, qu'il vous reste très peu de temps, avec la difficulté que nous savons de venir s'intégrer dans un club, surtout à l'âge qu'il a. Cavani, c'est un joueur qui est à la fois talentueux, mais besogneux. Il a cette grinta que les Uruguayens ont naturellement. D'ailleurs, quand vous regardez l'histoire de l'Uruguay, ce truc naturel qu'ils ont de se battre jusqu'au bout et de donner le maillot, de donner tout pour le maillot pour lequel ils travaillent, c'est naturel, c'est normal. Ce que Cavani a donné à Naples, il l'a donné au Paris Saint-Germain. Et il le donnera dans le futur club. Donc vous croyez franchement que Cavani, à partir du moment où il va rester pour la Ligue des Champions, il ne va pas avoir une petite voix dans sa tête qui va se dire, où il va se dire attention,
la raison.
De pas me blesser ou quoi que ce soit. C'est inconscient. Il ne peut pas être à fond. Même
c'est
en
humain.
Le moulant,
c'est humain.
Même avec la plus grande volonté du monde. Moi, j'en ai fait un poste sur mon mur. Même avec la plus grande volonté du monde. Que ce soit Cavani, que ce soit Thiago Silva, les mecs, il leur reste, allez, 2 ans, 3 ans maxi à jouer, en espérant qu'ils ne se blessent pas, qu'ils n'aient pas de grosses blessures, que les mecs soient bien dans leur tête, bien dans leur famille, bien dans leur cocon familial, etc. et dans leur future vie professionnelle avec le futur club. Allez, ils ont 3 ans à tout casser. Et si on va dire qu'on coupe ces 3 ans en 2, on leur donne 1 an et demi. Pour être vraiment au top de chez top.
Bah oui, mais Choupo-Moting, lui, il a accepté de rester jusqu'au bout. Voilà.
Enfin, c'est Choupo-Moting aussi. Hein. C'est
allez, on va se quitter pendant quelques instants pour respirer un petit peu et nous aborderons. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Très bon ami.
Et
effectivement, le côté psychologique de Cavani qui pourrait ne pas être à 100% pour finir sa saison avec le Paris Saint-Germain, même s'il s'agit de la Ligue des Champions. On se retrouve dans quelques secondes pour parler de l'Olympique de Marseille et du fair play financier notamment. A tout de suite sur RTL.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL à 20h.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h, nous allons parler maintenant de Marseille, notamment le fair play financier qui condamne le club à verser 3 millions d'euros, mais pas seulement. Avant quand même de parler de Marseille, on va finir sur le Paris Saint-Germain avec un supporter du PSG, ou plutôt non, Baptiste Durieux, qui va nous relayer les avis, les opinions des auditeurs d'RTL par rapport à tout ce qu'on a dit sur le Paris Saint-Germain. Baptiste.
Absolument, le message de Nico est dit, je suis choqué et déçu, ce que tu fais sera répété et amplifié quand je le raconterai à mes enfants. Pas ça, Eddie, pas après tout ce que tu as fait. Des messages un peu plus pragmatiques quand même comme Simon. Arrêtons d'idéaliser les joueurs au Parc des Princes. Les gens ne sont pas musulmans ni chrétiens. Ils sont cavanistes et ils tombent de leur chaise aujourd'hui. Il fallait s'y attendre sportivement et d'un point de vue pragmatique, c'est normal. Merci pour tout Eddy, moi je ne t'en veux pas. Et puis le message de Mathieu. Et là d'un seul coup je regrette que Choupo-Moting ne soit pas sur la liste pour disputer la Ligue des Champions. Lui, il reste jusqu'au bout. Merci Choupo, hashtag peu technique mais tellement sympathique.
Merci Baptiste. Deux mots quand même, on en a parlé avec le président Ferracci du PFC tout à l'heure. Philippe Sainfourche, des joueurs, des jeunes joueurs qui ne prolongent pas avec leur club formateur. On parle d'Adil Aouchiche qui serait proche de Saint-Etienne, Kouassi qui est parti, on l'a évoqué samedi dernier, du capitaine des U16 qui peut aller à Fribourg du côté du PSG. Puis un jeune Marseillais aussi convoité par la Juve, Ilyes Zouaoui. Ça dénote quoi ? Ça dénote que les clubs français ne sont à la ramasse pour garder leurs jeunes ?
Bah, Ça a été le cas pendant longtemps, et on a suffisamment souligné les cas avec le Paris Saint-Germain, de Kingsley Coman ou autre. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que ce soit l'Olympique Lyonnais avec Kalulu ou le Paris Saint-Germain avec Kouassi, avec Aouchiche, cette saison, ils se sont très vite mis dans la bataille, entre guillemets, pour ce premier contrat pro. Et on s'aperçoit que contrat après contrat, exemple après exemple, à chaque fois, ça penche du côté du départ. Donc là, en fait, il y a aussi, à mon avis, une question culturelle en ce moment. C'est-à-dire que les entourages de ces jeunes joueurs sont aussi, à mon avis, très impliqués dans les choix de carrière et que tous les arguments sur le purement sportif, je veux dire, Kouassi, c'est un garçon qui a fait des matchs avec le PSG cette saison. Donc il était amené à en faire encore. Avec ce qu'il a montré.
Kouassi va s'arrêter en plus. Il avait
donc cet argument de quelle garantie il a
de jouer au Bayern.
De jouer au Bayern, non, mais quand on voit l'effectif qu'il y a. Quelle garantie il a.
Il y a deux choses. Ça a toujours existé dans le recrutement. Il y a toujours eu les grands clubs qui tournaient autour des joueurs qui avaient du talent. Et généralement, il y avait une politique de club où on essayait de garder nos joueurs en disant « tu vas avoir une chance chez nous ». Donc, ce qui est important, c'est la politique que dégage ton club, la politique culturelle aussi par rapport à tes jeunes. Tu parles de Lyon. Lyon, à un moment, avait que des Brésiliens. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui jouaient en équipe première. Ils ont eu des problèmes financiers. Lyon a eu moins de résultats. Et la politique des jeunes est revenue et on a de retour fait jouer pas mal de jeunes. Paris est un club qui a de l'argent, on ne va pas se mentir. Et donc, Paris va chercher des grands joueurs pour les faire jouer. Un jeune au Paris Saint-Germain, on lui montre pas beaucoup de signal en disant t'as une chance de jouer, même s'il fait une fois un remplacement, qu'il fait deux bons matchs, il peut pas se dire je vais jouer toute la saison au Paris Saint-Germain.
Mais c'est à lui de prendre les clés.
Non, ça se passe pas comme ça. Crois-moi, j'ai travaillé à l'AS Monaco.
Mais Kim Pembe l'a fait comment? Rabiot pendant des années, Dagba cette année, il a fait comment?
Crois-moi, ça ne se passe pas.
Il a montré à l'entraînement, il a joué.
Crois-moi, ça ne se passe pas comme ça. D'abord pour un jeune pour jouer dans un grand club.
Non, mais là, ça se passe comme ça. Kouassi, comme l'a dit Florent Gazan, il avait sa chance cette année.
Kouassi, il avait resté.
Il n'y a pas plus de chance au Bayern qu'au PSG.
Alors,
peut-être même moins au Bayern.
Je ne suis pas.
Au Bayern, il y a quand même deux défenseurs centraux titulaires qui sont en passe de partir parce qu'ils n'ont plus qu'un an de contrat. Voilà. Parce que Boateng et Alaba, ils sont en train de contrat.
Il a plus de chance de jouer. Enfin là, Thiago Silva, il s'en va.
D'accord, mais
c'est immédiat.
Il y a Kerrer, il y a Diallo, il y a Marquinhos, il y en a déjà. Bah,
comme, comme le dit Philippe, à un moment donné, il y a des entraînements, il y a un entraîneur qui choisit. Qui dit aujourd'hui que Diallo est plus fort ou Kerrer que Kouassi.
C'est l'entraîneur qui dit ça.
Kouassi, c'est peut-être un cas un peu particulier parce qu'en effet, il avait réussi à obtenir du temps de jeu, il aurait pu continuer. Mais je pense qu'il a, il a misé. D'abord, en Allemagne, on donne beaucoup plus la chance aux jeunes de manière générale. Et au Bayern, encore une fois, il y a plusieurs défenseurs centraux qui sont en fin de contrat ou en fin de contrat dans un an.
Mais j'ai pas fini sur le côté financier.
En France, on a quand même un côté où on fait très peu jouer les jeunes. Et quand on fait signer des jeunes, regardez l'OM. Non, mais regardez l'OM, par exemple. L'OM vient de faire signer 5 jeunes du centre de formation, premier contrat professionnel. Pourquoi ?
C'est autant qu'en 10 ans.
Voilà, c'est autant qu'en 10 ans. Pourquoi ?
Parce
qu'en fait, maintenant, avec le fair play financier, on va y revenir, avec les problèmes d'argent qu'ils ont, ils n'ont pas d'autre solution que faire signer les jeunes joueurs. Oui. Mais quand ils avaient cette solution les années précédentes, au lieu de faire ça, ils sont allés chercher des mecs de 30 ans pour faire du court terme.
100% raison. Oui.
Voilà.
Alors, 100% raison. Mais si je puis me permettre vraiment avec un peu d'humilité, j'étais recruteur dans les clubs et ce n'est pas si facile que ça de pouvoir garder tes jeunes. Parce qu'il y a quand même, et tu en parlais tout à l'heure, de l'entourage. Et malheureusement, on en revient tout le temps à la même chose. Hein. C'est l'entourage familial, les agents. Et t'as aussi des parents. Je vais vous donner l'exemple d'Eden Hazard. Un jour, il avait 15 ans et demi. J'étais dans un match dans la province de Luxembourg à Etz. Le père s'appelle Thierry et me dit regarde, Steph, il sort de sa poche. Il y avait les cartes de tous les grands clubs. Il y avait le scout de Barça, du Real et tout. Et je dis tu vas faire quoi? Je vais le mettre à Lille. Parce que nous, on pense qu'il y a un projet familial, il y a un projet scolaire. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et pourtant, on lui mettait la caillasse, on lui mettait beaucoup d'argent sur la table. Il a choisi pour son gosse un projet sportif. Malheureusement, il y a certains jeunes qui ont un entourage à côté et qui pensent aussi au dollar quoi. Et donc à un moment ça a toujours été, mais c'est de pire en pire. La nouvelle génération c'est de pire en pire parce qu'il y a de moins en moins de parents qui gardent une lucidité. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est vrai.
Juste encore un mot, il y a une grosse différence. Quand tu es dans un club et que tu vas signer ton premier contrat pro, c'est rare, sauf si vraiment tu as un phénomène, que ton club qui t'a formé t'offre un très gros contrat tout de suite, parce que il y a un côté, on t'a formé, la première étape c'est de signer un premier contrat avec une somme intéressante mais sans plus. Quand tu es un club de l'extérieur et que tu veux arracher cette pépite, justement tu arrives avec la grosse caillasse, et c'est là que souvent les mecs perdent la tête, parce que leur club formateur leur propose certes un bon contrat mais qui n'a rien à voir avec ce que les autres veulent leur offrir.
C'est ça qui est inquiétant.
Sauf que tu prenais l'exemple de Kalulu. Kalulu, Lyon a mis l'argent sur la table une fois qu'ils étaient quasiment sûrs que le mec partait à Milan. Ils l'avaient pas mis avant.
Et quoi, quoi si c'est vrai. Quoi si c'est Gaza. Pareil, parce que Kouassi, avant que Tourelle le fasse beaucoup jouer, on entendait dire qu'il était en discussion, son agent, avec le Red Bull Leipzig depuis Milan, et que c'était quasiment signé. Bon, il se trouve qu'il va aller au Bayern, il va aller en Allemagne. Après, moi, je pense quand même qu'il y a une problématique sur les centres de formation. D'abord, c'est pas normal que ce soit des gruyères et que les agents, les parents, les machins rentrent là-dedans comme dans du beurre pour faire leur course. Il y a un moment, il faut quand même resserrer les vis. Et on voit au Paris Saint-Germain, au niveau de la réserve, elle a été supprimée. Donc les jeunes, ils disent où est-ce qu'on va jouer? Il y a beaucoup de jeunes, ils peuvent pas se tout jouer en équipe première. Et t'as l'impression, on se souvient à l'époque
où Thiago. Non,
mais d'accord,
mais contre
Philippe,
des mecs de 34 ans qui jetaient des brins.
Non, mais
et
je suis d'accord. Il
y a pas de mecs-là qui sont déjà quasiment arrivés, mais des autres. Si t'as plus de réserve, c'est difficile quand même.
Souviens-toi, quand Florian Thiago Motta disait pas un mot à Emery, tu sens très bien quand même que souvent dans les centres de formation, entre les différentes strates, les U16, les U17, les U19, ça communique pas bien. Et forcément, les mômes, à un moment donné, ils sont perdus. Il n'y a pas de cohérence. Ils disent bon, on va partir parce qu'ils ne voient pas le projet, quoi.
Mais alors, ils sont 100% raison. C'est pour ça que les clubs qui fonctionnent bien, ils mettent en dessous de l'entraîneur de la première équipe, donc l'équipe professionnelle, au centre, le directeur technique du centre de formation, et aussi en moins 19, en moins 17 et compagnie, des mecs, comme dit Florian, qui ont la même vision et surtout qui donnent espérance aux parents aussi en disant un jour votre fils pourra jouer en équipe première. Si à un moment les mecs ne se parlent pas, vous savez, il n'y a pas qu'à Paris, il y a plein de clubs où l'entraîneur de l'équipe première ne parle pas avec l'entraîneur de l'équipe espoir, les mecs ne se parlent pas, le gamin il dit mais moi je vais quand même pouvoir jamais jouer. Parce que ça se passe comme ça. Comment ça se passe à notre époque? On va parler comme des vieux. Ben, c'est que l'entraîneur de l'équipe première, il y avait besoin de trois jeunes et il lui dit tu vas prendre qui? Ben, il me dit moi, tel week-end, j'ai un tel qui joue bien, tel qui joue bien. Et le jeune méritant monter en équipe première. Mmh. Ça se passe plus souvent comme ça. Hein. Mmh. Ça se passe avec du lobby d'agents, du lobby de plein de choses. Et on préfère faire jouer des mecs où il y a l'intérêt financier. On parle de moins en moins de football, malheureusement, dans le club. On parle de plus en plus d'argent. Et les parents, je supplie moi aux parents un peu de garder une certaine lucidité. Ce n'est pas une poule aux œufs d'or, un enfant qui joue au football. Hein. C'est un gamin qui fait du sport et ça peut gagner de l'argent plus tard. Faut arrêter de penser que votre fils va faire que vous allez arrêter de travailler. Il y a 80% de parents comme ça.
La conclusion, Philippe Sanfour.
Mais il faut aussi, pour revenir sur l'exemple, puisqu'on est parti du PSG, et moi, il y a un exemple que je connais bien, c'est celui d'Adrien Rabiot. Ce garçon, quand il est monté pour faire un entraînement, parce que Carlo Ancelotti n'avait pas suffisamment de joueurs pour faire le nombre, et notamment qu'il voulait de la taille, et il a demandé justement, est-ce que vous avez un joueur qui fait un peu plus d'1m85?
C'est comme ça qu'il arrive.
Il est rentré, il a fait un entraînement, et Carlo Ancelotti a dit, lui, je veux qu'on le garde. Il est resté, il a fait 2 entraînements, 3 entraînements, il a gagné sa place, et ensuite il a fait 7 ans.
Mais parce que t'as un entraîneur,
mais voilà, ça dépend aussi de l'entraîneur. Ça dépend aussi de
l'entraîneur. Mais voilà.
Bah oui, non, mais je veux dire, ça veut dire que c'est la preuve que
c'est un lien
sur le
tout.
Talent, sur la capacité à démontrer. Il y a un moment, il faut aussi que tu démontres.
Mais il faut aussi que l'entraîneur
pas uniquement sur ce que t'as fait quand t'avais 14 ans.
Non, mais si l'entraîneur de l'équipe première, il te donne pas ta chance, tu peux démontrer pendant 3 ans
ça
en réserve.
Hein.
Tu sais, si tu veux une même anecdote, Carrasco à Monaco, c'est Ranieri qui est coach en D2. Même chose, il y a besoin de 3 jeunes pour aller en stage. Hein. Sinon, Carrasco, il joue jamais. Et il prend en stage, le gamin, il est bon. Et l'autre, il fait jouer le premier match championnat. Il y a un facteur chance, mais je reviens à ce que dit Denis. Il faut que ton entraîneur dans ton équipe première ait cette politique-là. T'as des entraîneurs, ils peuvent regarder. Ils vont jamais voir les jeunes.
S'il y a un bon gamin, il va prendre.
Philippe, t'as des entraîneurs. J'en ai connu, là je me tairai du nom, qui sont en équipe première et qui ne vont jamais voir les jeunes et qui vont ne jamais voir la CFA et qui savent même pas qui y joue. Et je peux te dire, ils en ont rien à battre.
Allez, on revient dans quelques instants pour parler cette fois, enfin, j'allais dire, de l'OM et du fair play financier. Jusqu'à 20h, nous sommes ensemble avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL, Stéphane Powels et Florian Gazan. Tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
.com, voir conditions détaillées en magasin.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h, Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Stéphane Powels, Florian Gazan. L'OM, le dossier OM, reprise de l'entraînement le 26 juin pour les Marseillais. Soulagement, car pas d'exclusion de la Ligue des Champions, mais pas de deuxième chance, il n'y en aura pas. Si pas d'équilibre des comptes, ce sera une sortie de la Coupe d'Europe pour les prochaines années, éventuellement, si l'OM se qualifie. Pour l'instant, c'est 3 millions d'euros d'amende, 23 jours inscrits sur la liste de l'UEFA au lieu des 25, 90 millions de déficit et une retenue, en plus des 3 millions, de 15% des revenus de la perception des participations aux Coupes européennes. Eric Silvestro, pour l'OM, c'est un moindre mal, c'est assez juste finalement.
Ah, c'est même un miracle, je trouve, pour l'OM, et je pense, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais que merci le coronavirus. Je pense vraiment que l'Olympique de Marseille, malheureusement, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé pour tous les mois, je pense que ça a vraiment aidé l'Olympique de Marseille et que c'est un petit miracle. Et certes, il y a beaucoup de conditions, hein, c'est pas non plus OK Corral et le Club Med, mais ça permet à l'OM quand même de vivre cette campagne de Ligue des Champions, de projeter tous les problèmes dans un an, même s'il faudra doublement les résoudre. Mais pour moi, c'est un petit miracle et l'OM peut dire un grand merci.
Florent Gazan.
Non, ils s'en sortent bien. Après, moi, j'ai un truc que je comprends pas avec le fair play financier, c'est quand tu gagnes pas assez d'argent, on t'en prend en plus. Donc c'est un peu bizarre pour essayer de.
C'est comme les impôts, hein, quand tu payes pas.
Les impôts, les banques.
Non, mais il faudrait quand même peut-être trouver d'autres moyens de sanctionner les clubs que de taper là, parce que tu les arranges pas. T'as l'impression que c'est une sorte de course au surendettement, quoi. C'est crédit à la consommation, ils vont aller chez CTLM. Non, mais oui, ils s'en sortent pas mal. Après, quand même, c'est mine de rien, c'est quand même lourd, parce que c'est 3 millions. Bon, bah, 3 millions pour l'OM en ce moment, c'est beaucoup. C'est 15% des revenus, ouais. Ça peut faire quand même beaucoup d'argent. 23 jours au lieu de 25. Bon, de toute façon, ils les avaient pas, les 25, ça tombe bien. Mais bon, c'est quand même reculé. C'est pas reculé pour mieux sauter, parce que mine de rien, il faut quand même régler le problème. Et puis bon, il y a le fair play financier, puis il y a aussi la DNCG pour l'OM. C'est aussi dont il faut tenir compte. Donc, ils sont pas sauvés pour autant. Il faut pas croire que
c'est. Non, pas sauvés. Ils gagnent, non, ils gagnent.
C'est pour ça qu'on dit c'est un moindre mal.
Ils gagnent, non, c'est reculé. Moi, je pense que c'est reculé pour mieux sauter, parce que la belle phrase de Jacques Brel, qu'il faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou, elle a pas vraiment été respectée à Marseille. C'est-à-dire qu'à un moment, on a commencé à donner des salaires avec leur grand projet de fou, hein, avec Payet en année, parce que tu payes pendant des années, Strootman et compagnie.
Il a des frais, Payet.
Non, mais il y a un moment, tu peux plus payer. Et donc, il y a un moment, tu demandes à l'investisseur de remettre la main à la poche, il veut plus. Et puis, bing, ça te tombe sur la tronche. Et donc, ce qui arrive maintenant, je rejoins, que malheureusement, le Covid, ça les aide un peu, mais le mal est profond. Il faut bien se rendre compte que l'OM n'a plus d'argent. Il faut se rendre compte que les supporters de l'OM qui nous écoutent, ça va être compliqué. Ils vont aller en Champions League. Tout ça, c'est
ils
beau.
Ils ont peu de valeur
tout
marchande,
ça,
en plus.
C'est bien sympathique. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs à vendre. Ils ont une équipe, excusez-moi, où Villas-Boas en a surcoté grâce à son talent d'entraîneur. Cette équipe a surévalué ce potentiel.
Ouais, il a pressé le citron.
Le citron, il est vraiment pressé. Il n'y a plus de pépins, il n'y a plus rien. Et donc, ça va être compliqué. Et moi, je suis un peu contre ce système. Je reviens à ce que dit Florian, parce qu'ils vont encore passer par la DNCG et compagnie. Moi, je pense qu'il fallait leur dire tout de suite maintenant non, stop. Vous pouvez pas. Je pense qu'il fallait être plus sévère avec Marseille. Je pense que leur laisser maintenant du lâcher.
Faire des amis, toi.
Me faire des amis, je le pense. Sincèrement, j'ai rien du tout contre Marseille. Mais je pense qu'à un moment, tu vas pas continuer à être surendetté. Quand t'as plus de thunes en couple et que t'as plus d'argent, t'achètes pas un nouvel écran plat, hein, une nouvelle Mercedes. Hein. T'as plus de thunes, tu roules avec ta deux chevaux. Quand t'as plus de thunes et que t'es Marseille, tu joues avec ton équipe et t'essayes pas de jouer les riches quand t'as pas le sou.
C'est vrai que c'est presque pas un cadeau finalement de les envoyer, de les laisser jouer la Ligue des Champions dans cet état-là, parce que ça dit quoi cette décision? Ça dit les deux saisons précédentes, un coup 90 millions de pertes, un coup 70 millions, donc c'est plus possible. Donc c'est adjoint aussi la fameuse marge de manœuvre où on peut négocier à la fin, terminée. Donc ça veut dire que c'est obligation. Là, il y a plus de négo, obligation d'être à l'équilibre.
Tout à fait.
La saison prochaine. Donc, être à l'équilibre la saison prochaine, sachant qu'il fallait déjà vendre pour à peu près 60 millions cet été. Là, c'est obligation de faire les 60 millions, c'est pas peut-être, c'est obligation, voire peut-être plus. Donc, 60 millions, c'est quoi aujourd'hui? 60 millions en valeur marchande de tes joueurs, c'est. Il faut te séparer quasiment de trois joueurs.
Trois joueurs, Camara, Sanson, voire Thauvin.
Camara, Sanson, Thauvin.
Thauvin, il revient.
Camara, c'est quand même une. Ça peut-être la plus
donc tu vas
valeur.
Peut-être perdre Camara, millions, Sanson et peut-être même un autre comme Kaletachar ou quelque chose comme ça.
Ce qui va faire que finalement l'OM va jouer cette Ligue des Champions, mais on peut être quasiment sûr qu'avec un effectif comme ça amoindri, elle va pas se requalifier.
Mais aussitôt pour une coupe.
Sachant que les acheteurs, aussi, c'est écrit maintenant, c'est avec des jumelles. Hein. C'est-à-dire Marseille, ils ont besoin d'argent. Donc
c'est ce que j'allais te dire.
On va les tordre.
Donc maintenant, ils vont te dire, de toute façon, les mecs, comme ils crèvent de faim et qu'ils ont besoin de pognon, les mecs, même les bons joueurs comme Camara qui vaut du pognon, ils vont proposer moins. Ils vont proposer moins parce que Marseille va être obligé d'acheter. Ah oui, c'est la loi du marché.
Ah, c'est sûr.
Quand tu dis que tu n'as pas besoin d'argent, là, on te fait des grosses offres. Et quand tu dis que tu crèves de faim, on te donne des cacahuètes.
Baptiste Durieux, qu'en pensent les auditeurs d'RTL de Marseille?
Très drôle de Quentin, supporter de Marseille. Ce qui arrive à l'OM, on dirait moi avec mon banquier quand je paye des adios parce que je dépasse mon découvert tous les mois. Je me sens vraiment marseillais, du coup il leur faut une visa électron et ils retrouveront évidemment l'American Express l'année prochaine. Et puis le message de Tristan, l'OM s'en sort très bien. Le retour de Mitroglou, titulaire indiscutable en pointe, aurait été une sanction plus dure par exemple. Et plus sérieusement, ça peut permettre à l'OM de faire une année saine financièrement et de mieux repartir après.
Florent Gazan.
Une année saine financièrement, le problème c'est que si t'as pas de joueurs, pas d'équipe et que tu te ramasses en Ligue des Champions et que l'année prochaine t'es pas qualifié en Ligue des Champions parce qu'en championnat t'atteins pas ces places nécessaires, tu vas encore continuer à creuser ton trou. Là tu seras même plus au fond du trou, c'est quand tu lèveras la tête tu verras le fond du trou.
Il y a un miracle, le miracle qu'on a tous raconté ici, c'est qu'André Villas-Boas est resté, hein, donc ça c'est quand même un miracle.
Il cherche toujours un directeur sportif.
C'est que le mec il est resté en sachant quand même il est pas dingue, qu'il allait jouer avec cette équipe là en Champions League et qu'il sait qu'il va pas avoir 10 joueurs qui vont arriver. Le mec s'il commence à perdre 4-5 matchs et qu'il n'est pas bon et que les supporters grondent, tu vas voir s'il va pas commencer à gratter à sa tête en disant qu'est-ce que j'ai fait de rester à Marseille.
Un directeur sportif, ça sera pas Olivier Piqueux peut-être.
Enfin, mais même si tu mets un bon Denis, c'est pas faire des miracles.
De toute façon, tu peux pas. Sans argent, tu peux rien faire.
Tu peux mettre le meilleur directeur sportif du monde.
Ça, c'est une certitude. Dans tous les cas, l'OM en difficulté pour cette saison en Ligue des Champions, on le savait déjà avant le fair play financier qui a sanctionné donc l'OM 3 millions d'euros d'amende et puis une retenue de 15% des revenus de perception à la participation à cette Coupe d'Europe. L'OM qui a combien de déficit, Philippe Saint-Fourche? 90 millions, on peut dire.
C'est sur les deux exercices précédents, c'est un coût 90, un coût 70. Oui, donc on est sur une formation qui perd énormément d'argent chaque année. Et effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec le président Ferracci, le PGE qui a permis justement d'amortir la crise n'amortit pas que la crise dans le cas de l'OM, il amortit d'autres choses.
On se retrouve dans quelques instants après la pub pour parler de Benzema, son succès avec le Real Madrid, de Griezmann, ses difficultés avec le Barça. Puis ce sont, Philippe Saint-Fourche, j'y tiens beaucoup, les 10 ans de Nice-Na.
La Coupe du Monde. C'est ta faute.
On en parlera bien sûr.
Descends du bus.
Terminer cette émission de ce soir du 20 juin. On refait le match. Ce soir ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Avec Denis Balbir.
De la transition écologique et solidaire.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Saint-Fourche, avec Silvestro d'RTL, Stéphane Powels, Florian Gazan. Nous avons un auditeur supporter de l'OM, c'est ça Baptiste? Édouard est avec nous, Édouard?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Édouard.
Alors, supporter du Real Madrid.
Du Real Madrid. On va parler effectivement de Karim Benzema. Donc, tu restes avec nous, Edouard. Le Real qui est à la lutte avec le Barça pour le titre. Un match de plus pour le Barça. Le Real qui jouera demain contre la Real Sociedad et le Barça qui affrontera Athletic Bilbao le 23 juin. Benzema, Philippe Saint-Fourche qui vole.
Oui, il est revenu avec les qualités qu'on lui connaissait. C'est pas forcément tous les joueurs qui savent se remettre immédiatement au très haut niveau. De toute façon, il y a pas de mystère. C'est un, voire peut-être le plus grand numéro 9 que la France ait jamais connu. Alors évidemment, malheureusement, l'histoire avec l'équipe de France, elle est ce qu'elle est. Mais en club, il réalise une carrière qui est proche de la perfection.
Stéphane Powels.
On ne va surtout plus revenir sur pourquoi il joue pour l'équipe de France, mais sur son talent pur, ce qu'il a fait. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association avec Hazard. Je trouvais que le Real a proposé des choses intéressantes, mais ce que fait Benzema, c'est un phénomène, quoi. C'est-à-dire, c'est monstrueux. Je veux dire, le but qu'il met
le deuxième,
c'est un truc de ouf, quoi. Et donc, pour moi, c'est le plus grand attaquant français que n'a pas eu la France depuis de nombreuses années.
Florent Gazan, à contrario, Griezmann, ça va pas très fort au Barça.
Griezmann, ça n'a jamais été fort en fait. C'est l'histoire.
On avait espéré que ça aille mieux.
Oui, mais enfin, on sait depuis le début que cette histoire, elle est mort-née malheureusement. Il a fait une erreur. On parlait des entourages. Je pense qu'il a pas forcément très bien conseillé. Le crime originel, si je puis dire avec des guillemets, c'est cette histoire de vidéo de la décision. Voilà, je reste à l'Atlético au lieu d'aller au Barça. Bon, produite par Piqué, ça, on met de côté. Mais évidemment, quand un an après, tu te pointes au Barça en disant je viens jouer chez vous, mais derrière, tu voulais pas, mon
c'est
pote.
C'est compliqué.
Donc voilà, à partir du moment où il s'est fait carrer par Messi et Co, c'était terminé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, tu peux mettre tous les entraîneurs de la Terre, Messi, s'il veut pas lui donner le ballon, personne lui dira dis donc yo-yo, donne-lui le ballon à Antoine.
Alors c'est vrai, mais moi je ne comprends pas ça. Pour moi c'est une énigme, c'est-à-dire que Griezmann, c'est pas le genre de joueur qui arrive et qui est Zlatan Ibrahimovic et qui dit moi Messi il va se foutre sur un côté, je lui file plus le ballon, c'est moi qui prends le pouvoir. C'est pas le genre de Griezmann. Au contraire, c'est un joueur qui est plutôt collectif, qui sait se mettre au service des autres, et moi, sur le papier, je trouve que Griezmann-Messi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je me dis, même Messi, dans ces cas-là, pour moi, c'est un vrai problème, la façon dont approche ça Lionel Messi. Je veux dire, quand tu vois aujourd'hui comment joue le Barça en attaque, franchement, Messi, il a besoin de Griezmann aussi, même si c'est le plus grand joueur de tous les temps. Il aurait tout intérêt a aussi avalé un petit peu son orgueil et soi-disant en plus Messi n'est pas du genre aussi
ils peuvent pas jouer ensemble parce qu'il y en a un qui a un boulard et qui veut pas partager et
que Messi c'était l'Oréal qui n'a pas de boulard
Messi veut bien partager à partir du moment où Griezmann va chercher les ballons à 40 mètres derrière et qui lui récupère les ballons
et il joue
dans la même zone. Ah mais moi je critique pas Griezmann, je te dis que je suis un des seuls qui va me permettre de critiquer Messi, c'est même un grand joueur.
Pour moi,
mais
je comprends pas que ça fonctionne pas,
ils peuvent pas jouer ensemble. Il y a un truc qui ne va pas, comme dit Florian. Déjà, dès le début, voilà, c'est comme si t'as une gonzesse, ça peut pas coller, ça collera pas.
On sait tous qu'il y a des problèmes de vestiaire dans les clubs, mais si les problèmes de vestiaire empêchent deux joueurs de cette classe de jouer ensemble, c'est quand même grave. Que ça le fasse sur quelques matchs. Si ton équipe gagne tous les matchs 3-0 sans Griezmann, tu dis rien. Mais là, c'est pas le cas.
On va revenir sur Benzema avec Edouard qui est avec nous. 30 secondes, Edouard, parce qu'on est pris par le temps. Évidemment, ravi, j'imagine, que de cette course-poursuite, le Real qui revient grignoter Barcelone avec du grand Benzema.
Ah mais écoutez, tout à fait, je vous écoutais. Je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. En fait, je pense que Zinedine Zidane a plutôt très bien résumé les choses en conférence de presse. Karim Benzema, au fil des années, il fait taire ses détracteurs, parce qu'il en a des détracteurs. Il les fait taire sur le plan sportif et aussi, je crois, sur le plan extra-sportif. Vous disiez, oui, peut-être le meilleur neuf de l'histoire du football français. En fait, il faut aussi garder à l'esprit que ce qui est fabuleux avec ce joueur, c'est qu'il a aussi de nombreuses qualités qu'a normalement un numéro 10. Et c'est aussi ce qui fait sa place toute particulière au sein de l'effectif et du dispositif actuel du Real Madrid. Parce que Real Madrid joue sans réel numéro 10. Et il y a ce Benzema qui, en fait, non seulement marque des buts, a assumé le rôle de Cristiano Ronaldo, en tout cas c'est celui qui l'a mieux fait depuis son départ, et en plus de ça, quand même, va récupérer les ballons, va construire le jeu comme le fait un numéro 10. Mmh. Et ça, évidemment, c'est un atout immense pour Karim Benzema, et on a vraiment besoin de ce joueur, il est extrêmement utile pour nous dans la lutte pour le titre.
Merci beaucoup, Edouard. On va conclure, Philippe Saint-Fourche, avec cet anniversaire, hein, ces 10 ans de Nice-Na, le chronomètre qui vole, personne descend du bus, machin, etc. Ouais. On en rigole maintenant.
La lettre.
Oui, on en rigole parce que depuis, ça a bien tourné, mais il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, on était la risée du monde. Je crois que ça nous renvoie justement à tout ce qui a changé. C'est-à-dire, on l'a évoqué tout au long de la soirée, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, Noël Le Graët, aujourd'hui, c'est un président fort, à poigne, avec une vraie corrélation avec son sélectionneur Didier Deschamps, tout l'inverse de ce qui était à l'époque, c'est-à-dire un Raymond Domenech qui avait été reconduit en 2008 alors qu'il sortait d'un fiasco, où personne ne lui faisait confiance, où il était là parce qu'on voulait pas justement de la génération 98, mais on pouvait pas non plus mettre des gens de la génération 84, donc on faisait un entre-deux bizarre, et à l'arrivée ça a donné ce fiasco.
Florent Gazan.
Ça reste quand même un grand mystère du football français, j'ai l'impression que maintenant c'est fait entrer l'accusé, un jour on saura peut-être ou jamais, parce que tous les acteurs en fait réécrivent un petit peu l'histoire, c'est comme Materazzi, tous les ans ils changent la version de ce que lui a dit Zidane. Et là, on a l'impression qu'il y a des acteurs de cette histoire qui ont oublié ce qui s'est passé.
Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Philippe Sanfourche, avec Sylvestre Audertel, Stéphane Powels, Florian Gazan, Baptiste Durieux et à toutes les équipes techniques qui étaient avec nous. On se retrouve samedi prochain, bien sûr. À tout de suite sur RTL.